Le texte que nous allons commenter se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 28, les versets 15 à 31. En voici la lecture. Les frères de Rome avaient reçu des nouvelles à notre sujet et vinrent jusqu'au marché d'Appius et à trois auberges pour nous rencontrer. Dès que Paul les vit, il remercia Dieu et prit courage. Quand nous sommes arrivés à Rome, on permit à Paul de demeurer à part avec un soldat qui le gardait. Trois jours plus tard, Paul invita chez lui les chefs des Juifs de Rome. Quand ils furent réunis, il leur dit « Frères, quoique je n'ai rien fait contre notre peuple, ni contre les coutumes de nos ancêtres, j'ai été arrêté à Jérusalem et livré aux Romains. » Ceux-ci m'ont interrogé et voulaient me relâcher car ils n'avaient trouvé en moi aucune raison de me condamner à mort. Mais les Juifs s'y sont opposés. Et j'ai alors été obligé d'en appeler à l'empereur, sans avoir pourtant d'accusation à porter contre ma nation. Voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car je porte cette chaîne à cause de celui qu'espère le peuple d'Israël. Ils lui dirent, nous n'avons reçu aucune lettre de Judée à ton sujet, et aucun de nos frères n'est venu de là-bas pour nous faire un rapport ou nous dire du mal de toi. Mais nous voudrions bien t'entendre exprimer ce que tu penses, car nous savons que partout on s'oppose à ce parti auquel tu appartiens. » Ils fixèrent un jour avec Paul, et ils vinrent ce jour-là en plus grand nombre le trouver à l'endroit où il logeait. Depuis le matin jusqu'au soir, Paul leur donna des explications. Il leur annonçait le royaume de Dieu et cherchait à les persuader au sujet de Jésus en se servant de la loi de Moïse et des livres des prophètes. Les uns furent persuadés par ce qu'ils disaient, mais les autres refusaient de croire. Comme ils s'en allaient sans pouvoir se mettre d'accord entre eux, Paul leur dit simplement ceci. Le Saint-Esprit avait bien raison lorsqu'il s'adressa à vos ancêtres par le moyen du prophète Ésaïe. Il disait en effet, « Va vers ce peuple et dis-lui, vous entendrez bien, mais vous ne comprendrez pas. Vous regarderez bien, mais vous ne verrez pas, car l'esprit de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles, ils ont fermé les yeux, afin que leurs yeux ne voient pas, que leurs oreilles n'entendent pas, que leur esprit ne comprenne pas, et qu'ils ne se tournent pas vers moi pour que je les guérisse, dit Dieu. » Sachez donc, ajouta Paul, que le message du salut de Dieu a été envoyé à ceux qui ne sont pas juifs. Ils l'écouteront, eux. Quand Paul eut dit ces mots, les Juifs s'en allèrent en discutant vivement entre eux. Paul demeura 2 années entières dans le logement qu'il avait loué. Il y recevait tous ceux qui venaient le voir. Il prêchait le royaume de Dieu et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une pleine assurance et librement. Alors ici nous avons la finale des Actes des Apôtres avec enfin le but atteint, Paul à Rome. Alors effectivement c'est pas comme ça que on se serait imaginé les choses. C'est une entrée triomphante de Paul, et bien au contraire, voilà Paul en captivité, et pourtant le texte reste optimiste. Il y a déjà là une leçon. Donc Paul ici a eu un régime de, on peut dire, de faveur, puisqu'il a pu louer un appartement, mais il devait rester attaché à un soldat, son poignet attaché au pied d'un soldat, avec une longue chaîne tout de même. Donc malgré ces conditions, disons, restreintes, la parole de Dieu se répand. Alors, si nous allons plus dans le détail, je vous propose donc une analyse linéaire. Donc, les frères de Rome avaient reçu des nouvelles à notre sujet et vinrent jusqu'au marché d'Appius et à trois auberges pour nous rencontrer. Dès que Paul les vit, il remercia Dieu et prit courage. Donc ici, vous voyez, il y a déjà une démarche intéressante, ne serait-ce que dans l'interprétation littérale. Paul attribue tout à Dieu. Alors il ne s'agit pas d'attribuer le malheur ou toute maladie à Dieu, mais savoir vraiment rendre la gloire à Dieu et remercier Dieu quand il nous arrive quelque chose de positif. Car Dieu a tout entre ses mains. Sachons vraiment remercier Dieu et le louer. Et même quand les choses ne sont pas extraordinaires. Parce que ici finalement Paul est quand même enchaîné, ou va l'être, il est captif, mais il trouve un motif de joie en remerciant Dieu. Alors, si on voit ça dans nos propres vies, nous-mêmes, nous avons parfois, nous prions pour telle chose dans notre vie ou pour nos frères, où nous voyons ce monde et les choses en apparence n'ont pas l'air d'aller bien. Eh bien, sachons comme Paul voir les signes avant-coureurs, je dis bien avant-coureurs, que sont ses frères dans le texte, qui nous permet de louer Dieu au cœur, de l'échec apparent. C'est ça qui va nous montrer ce qui est vrai, qui va nous faire passer du découragement à la persévérance, de la colère à la patience, par rapport à nos frères ou à nous-mêmes, ou à nos efforts, ou à nos échecs, qui semblent piétiner, les efforts qui semblent piétiner, les échecs qui semblent là, les frères qui ne se tournent pas vers Dieu, les mêmes défauts qui reviennent chez nous et chez nos frères, ce monde qui semble entêté, cette église qui nous semble imparfaite, eh bien comme Paul, vraiment sachant discerner ses frères, c'est-à-dire ses signes avant-coureurs. Et ici c'est intéressant parce que si nous voyons Paul comme une figure du Christ, eh bien, qu'est-ce qui réjouit Paul, qu'est-ce qui réjouit le cœur du Christ, c'est de voir ses frères. Le Christ, nous avons le moyen de mettre le Christ en joie quand nous travaillons en collaboration avec lui. Nous pouvons vraiment le soulager de ses chaînes. Combien de cœurs sont fermés à Jésus? Eh bien, par notre prière, par notre louange, par notre intercession. Nous mettons le cœur de Jésus en joie et nous lui mettons du baume au cœur parce que par notre prière, nous sommes comme un espace de liberté que nous offrons par notre humanité à l'action de Jésus dans le cœur de nos frères qui sont si fermés dans notre propre cœur où il y a des zones si fermées, etc. Donc ne l'oublions pas. Et de même, c'est ainsi que nous devons voir cette vie avec ses frères. Cette vie, c'est comme ses frères. C'est un avant-goût de la vie éternelle. Elle est déjà là, la vie éternelle. Mais sachons vraiment déjà vivre cette vie avec ce qui importe dans l'autre, c'est-à-dire quelles sont les valeurs de l'autre vie, eh bien, quels sont ses frères qui vont nous donner un sujet de remerciement, de louer le Seigneur à la perspective de vivre avec lui, eh bien, c'est plutôt que l'ambition, eh bien, l'amour, plutôt que l'orgueil, l'humilité. Cultivons ces valeurs, prions le Seigneur pour que il nous donne envie et qu'il nous donne la capacité vraiment de chercher d'abord la justice du royaume. Alors continuons. Quand nous sommes arrivés à Rome, on permit à Paul de demeurer à part avec un soldat qui le gardait. Donc ici, vous voyez, c'est déjà toute une symbolique. Finalement, Jésus, la victoire est là. Jésus est à Rome. Ce monde est à Jésus. Tous ses frères pour qui nous prions, tous ces défauts que nous avons et que nous remettons à Jésus dans la prière, tous ces efforts que nous faisons appuyés par la prière, la victoire est là. Mais, pour l'instant, comme Paul, Jésus est enchaîné, parce qu'il respecte nos libertés, nos réticences, et il y a encore, disons, comme ce soldat, c'est-à-dire une espèce de surveillance, les choses ne sont pas pleinement libres. Mais il n'empêche que Rome est déjà là. Ici, Rome étant le symbole vraiment de la victoire. Et c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, malgré les apparences, même si Paul est enchaîné, eh bien, la victoire est là, Paul est à Rome. Remarquez que si on prend la vie du Christ, c'est exactement ce qui s'est passé. Le Christ s'incarne, alors évidemment, tout aurait dû bien se passer, hein. Mais Jean, dans son évangile, au premier chapitre, dit que les ténèbres, le monde n'a pas reçu le Christ et le monde a préféré les ténèbres. Oui, c'est-à-dire que normalement, le Dieu arrive sur terre, tout est bien, on l'accueille et voilà. Eh bien, c'est pas ce qui s'est passé. Le monde a comme enchaîné Jésus, il l'a même crucifié. Et donc, mais la victoire est quand même là parce que après la crucifixion, il y a la résurrection. Ne l'oublions jamais. Donc, 3 jours plus tard, Paul arriva chez lui. Paul invita chez lui les chefs des Juifs de Rome. Quand ils furent réunis, il leur dit « Frères, quoique je n'ai rien fait contre notre peuple ni contre les coutumes de nos ancêtres, j'ai été arrêté à Jérusalem et livré aux Romains. Ceux-ci m'ont interrogé et voulaient me relâcher, car ils n'avaient trouvé en moi aucune raison de me condamner à mort. Mais les Juifs s'y sont opposés, et j'ai alors été obligé d'en appeler à l'empereur, sans avoir pourtant d'accusation à porter contre ma nation. Voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car je porte cette chaîne à cause de celui qu'espère le peuple d'Israël. » Alors, vous voyez ici, c'est un remake de ce qu'a vécu Jésus, finalement. Dans son procès, Pilate voulait le relâcher, et puis, eh bien, les Juifs s'opposaient et Jésus était condamné. Et ici, donc nous voyons Paul qui fait ce que Jésus a fait finalement, qui malgré l'échec apparent, continue à aimer les Juifs, continue à aimer ceux qui ne l'aiment pas, et il ne veut pas porter d'accusation. Eh bien, finalement, la résurrection du Christ, c'est comme un accomplissement de sa passion. Le monde l'a crucifié. Sa résurrection, c'est une manière de dire « Je vous aime malgré tout. Et malgré tout, mon amour va vous transformer et va vous faire vivre. » Et c'est la démarche de Paul aussi. Et ça doit être aussi notre démarche. Vous voyez, quelquefois, nous aimons des gens, nous essayons de les aimer, nous essayons aussi de témoigner l'Évangile, et les choses ne sont pas bien accueillies, ou notre amour n'est pas bien reçu, et nous avons comme des échecs, ou par rapport à nos propres vies, nous sommes déçus par nous-mêmes. Eh bien, ne portons pas d'accusation contre notre nation, c'est-à-dire continuons avec persévérance à aimer malgré tout, sachant que les échecs ou les contretemps, ne sont que des contretemps, que la direction est là, que après la crucifixion, il y a la résurrection. Et cette vie doit être effectivement vue de la même manière, c'est-à-dire que il y a beaucoup d'obstacles à l'action de Dieu dans nos vies, dans ce monde, mais soyons persévérants, comme Paul, continuons notre devoir, faisons ce qui est à notre portée, c'est-à-dire aimer, témoigner explicitement si cela est possible, et surtout beaucoup prier, c'est ce qui nous est demandé. Et notons aussi que Paul a, tout comme le Christ, qui finalement le projet de Dieu n'était pas de sauver l'humanité en se faisant crucifier, mais c'est comme ça, l'humanité l'a rejeté, donc Dieu sauve en fonction de notre liberté et du mauvais usage de notre liberté. Il nous sauve en si j'ose dire, en s'adaptant à nous, c'est ça l'amour. C'est s'adapter à l'autre, c'est aimer l'autre en fonction de ce qu'il est. C'est exactement ça la crucifixion. L'homme a péché, à la chute, et puis Dieu va le sauver. Et même s'il lui en coûte. Eh bien ici, Paul, il voulait témoigner à ses frères juifs, ils l'ont persécuté, donc il a dû en appeler à l'empereur. Ici l'empereur, ça symbolise comme une autre dimension. Par rapport aux Juifs, en appelant à l'empereur, bien nous-mêmes c'est pareil. Parfois nous avons envie de témoigner explicitement à nos enfants, à quelqu'un de l'Évangile, ou nous pensons que de simples efforts vont venir à bout de tel ou tel défaut, et puis il y a des contretemps, eh bien faisons appel à l'empereur, prions, rentrons dans une autre dimension, comme le dit Paul dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 6, c'est dans le monde invisible que se jouent les choses, c'est plus long, parce qu'effectivement, dans l'invisible des cœurs notamment, il y a beaucoup de réticences à vaincre, il y a beaucoup de liberté à apprivoiser, chez nous comme chez nos frères, mais la victoire n'en est que plus profonde. C'est l'expérience que va faire Paul dans ses chaînes à Rome, finalement. Alors, continuons. Voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car je porte cette chaîne donc à cause de celui qu'espère le peuple d'Israël. Et lui dire, nous n'avons reçu aucune lettre de Judée à ton sujet, et aucun de nos frères n'est venu de là-bas pour nous faire un rapport ou nous dire du mal de toi. Mais nous voudrions bien t'entendre exprimer ce que tu penses, car nous savons que partout, on s'oppose au parti auquel tu appartiens. Ils fixèrent un jour avec Paul, et ils vinrent ce jour-là, en plus grand nombre, le trouver à l'endroit où il logeait. Depuis le matin jusqu'au soir, Paul leur donna des explications et leur annonçait le royaume de Dieu, et cherchait à les persuader au sujet de Jésus en se servant de la loi de Moïse et des livres des prophètes. Les uns furent persuadés par ce qu'ils disaient, mais les autres refusaient de croire. Alors ici, vous voyez la démarche de Paul. Il y a, si on prend toujours cette interprétation allégorique où on ramène tout au Christ, c'est finalement ce qu'a vécu le Christ. Il a eu beaucoup de gens qui ont accueilli son message, notamment les publicains. Les choses ont souvent bien tourné au départ. Il y a eu un certain succès. Puis les choses se sont gâtées, il y a eu un endurcissement du cœur. Si je continue, on pourrait mettre ça dans la bouche du Christ. D'ailleurs, le Christ le cite aussi. Comme ils s'en allaient sans pouvoir se mettre d'accord, les Juifs donc, entre eux, Paul leur dit simplement ceci, le Saint-Esprit avait bien raison lorsqu'il s'adressait à vos ancêtres par le moyen du prophète Ésaïe. Il disait en effet, « Va vers ce peuple et dis-lui, vous entendrez bien mais vous ne comprendrez pas, vous regarderez bien mais vous ne verrez pas. Car l'esprit de ce peuple est devenu insensible, se sont bouchés les oreilles, ils ont fermé les yeux, afin que leurs yeux ne voient pas, que leurs oreilles n'entendent pas, que leur esprit ne comprenne pas, et qu'ils ne se tournent pas vers moi, pour que je les guérisse, dit Dieu. Sachez donc, ajouta Paul, que le message du salut de Dieu a été envoyé à ceux qui ne sont pas juifs. Ils l'écouteront eux. Quand Paul eut dit ces mots, les juifs s'en allèrent en discutant vivement entre eux. Voyez donc, si on voit un peu la démarche du Christ, le Christ est venu pour nous apporter la vie. Il est venu, et les gens ont préféré les ténèbres. Le Christ a dit, je suis la lumière du monde. Et les gens l'ont rejeté, même si au début il y a eu un certain succès. Eh bien, malgré tout, Jésus, eh bien, comment dire, c'est comme finalement adapté. Ça a conduit à la crucifixion, ce qui a amené la résurrection, et après la venue de l'Esprit Saint. Et je dirais que l'Église, finalement, eh bien, c'est cette adaptation du projet de Dieu à notre refus. Parce que effectivement, dans l'idéal, le Christ arrive, s'incarne. Les gens l'écoutent et le royaume de Dieu est là. C'est pas ce qui s'est passé. Je ne dis pas que Dieu ne s'y attendait pas. Mais donc, l'homme a rejeté Dieu. L'homme a rejeté le Christ. Que fait le Christ? Le Christ s'adapte en prenant une autre voie, plus difficile mais plus profonde, qui attaque l'invisible, la profondeur, c'est-à-dire l'amour qui va jusqu'à la croix et la résurrection. Donc Jésus passe chez l'empereur dans une autre dimension. Et finalement, qu'est-ce que fait nous avons ça. Le message n'est pas reçu par les Juifs et c'est les païens qui s'ouvrent. C'est aussi, au sens littéral, c'est ce qui s'est passé. Mais c'est aussi une manière aussi de montrer que, eh bien, finalement, les gens n'ont pas reçu comme ça. Eh bien, Jésus a agi par sa mort et sa résurrection et va continuer à agir en ce monde, certes d'une manière plus invisible par son esprit, dans son Église. C'est un petit peu l'adaptation que fait Paul, eh bien, vous ne voulez pas recevoir le message, j'irai voir d'autres personnes. Il y aura une autre stratégie. C'est ce qui s'est passé. Finalement, le royaume devait venir, c'est ce qu'on dit d'ailleurs assez méchamment à propos de l'Église, mais c'est profondément vrai, sans être méchant. Je ne sais plus qui a dit, Jésus prêchait le royaume, et qu'est-ce qui est venu l'Église? Eh bien, c'est exactement ça. Eh bien, l'Église, c'est la réponse de Dieu à notre refus. C'est-à-dire, c'est ce temps de patience que Dieu nous donne, où il agit au cœur de ce monde d'une manière invisible par son esprit dans l'Église, qui se doit donc d'être l'Église ouverte à l'action de l'Esprit-Saint, à l'action de l'invisible, c'est-à-dire une Église priante, c'est-à-dire nous-mêmes devons être priants. Et ça nous amène à l'autre dimension, qui est centrée sur notre vie plus quotidienne et intérieure. Qu'est-ce qui se passe finalement? Nous sommes là, comme Paul, nous essayons de discuter, parfois, je pense, quand on veut évangéliser, on s'adresse à la tête. Mais c'est le cœur qu'il faut toucher. Paul essaie de convaincre, et ça ne marche pas. Certains se laissent convaincre, d'autres pas, il y a une indécision. Et finalement, Paul se rend compte, c'est un peu ce qu'a connu Jésus, l'endurcissement des cœurs. Des fois, on se dit, mais là, les gens sont tellement déprimés, ils vont chercher des solutions, mais c'est Jésus la solution. Il n'y a rien à faire. Ça peut être très décourageant, finalement. Et Paul, finalement, que fait-il? Et c'est ce que nous devons faire. Si la tête ne veut pas, nous devons toucher le cœur des gens, et c'est ça qu'il faut faire. Nous devons passer du juif au non-juif, c'est-à-dire changer de notre fusil d'épaule, c'est-à-dire accepter ces contretemps. Eh bien, si nous ne pouvons pas toucher les cœurs de manière explicite, par un témoignage explicite, faisons comme Paul, tournons-nous vers une autre stratégie, c'est-à-dire celle qui est illustrée après, hein, Paul qui est enfermé dans son logement, qui est symbole de la prière, de l'intériorité, eh bien, commençons à prier, à aimer, par un témoignage implicite, c'est plus long, ça a l'air de stagner, mais c'est comme ça que nous arriverons à toucher le cœur de nos frères en profondeur. Vous voyez, il faut changer. Le témoignage explicite est bien, mais il ne marche pas très souvent, et il faut accepter ces contretemps. Et il ne faut pas prendre ça comme un échec quand ça ne marche pas, mais il faut faire comme Paul, voir les choses, et puis Comment dire, Paul demeura 2 années entières dans le logement qu'il avait loué. Il y recevait tous ceux qui venaient le voir. Il prêchait le royaume de Dieu, enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec pleine assurance et librement. Donc, nous avons, malgré tout, la possibilité de prêcher, mais enfermés, dans notre logement, n'avons pas toute la latitude d'un témoignage explicite. Eh bien, ça fait rien dans notre logement. Eh bien, nous allons non pas aller nous imposer, mais recevoir, c'est-à-dire ceux qui viennent nous voir, c'est-à-dire tenir compte des réticences des gens, accepter de faire avec leur liberté. Comment? Eh bien, dans le logement, c'est-à-dire dans cette prière, dans cette petite porte, nous n'avons plus qu'une petite porte, au lieu d'avoir un grand boulevard de témoignages explicites, eh bien, dans ce logement, en tenant compte de la liberté des gens, comment faire? Eh bien, comme Paul, nous avons quand même le moyen de prêcher avec assurance par notre prière, notre témoignage implicite, qui est toujours orienté vers un témoignage, c'est-à-dire nous aimer les gens dans le but que cet amour produise des fruits intérieurs dans leur cœur. Donc c'est quand même une dimension d'évangélisation. On les aime pas pour les aimer. Mais il y a aussi cette dimension d'évangélisation. Aimer comme moyen d'évangélisation à condition que ceci soit comme transformé, comme au rugby, une transformation par notre prière, par notre intercession. Vous voyez, c'est ce à quoi nous sommes appelés. De même pour nos propres efforts. Nous voyons que les choses ne vont pas aussi vite que nous voulons. Comme Paul, prenons ce logement, prêchons d'une manière, disons, en tenant compte de nos limites, et en priant, et en étant patient, nos efforts et notre prière, et plutôt que d'attendre quelque chose qui vienne comme une baguette magique ou à la force du poignet y arriver. Et de même, vous voyez, si l'on prend une échelle un peu plus grande, c'est ce qui va se passer. Le Christ est venu, les gens ont refusé le royaume, et ben, ça fait 2000 ans. Mais le Christ travaille par son esprit, par son église, dans les sous-bassements, dans le sous-jacent, voyez, dans l'invisible des cœurs. Il pétrit ce monde, mais les choses se font. Regardez, avec une pleine assurance et librement. Le royaume avance, il y a un contretemps, c'est pas grave. Le Christ passe par l'invisible, il passe par l'inconscient, par les cœurs. Il pétrit ce monde, comme le levain dans la pâte, même s'il faut du temps. C'est la conséquence du refus du Christ il y a 2000 ans. Mais c'est pas grave. Les choses avancent, ne soyons pas découragés. Et c'est exactement la même chose dans cette vie. Combien de gens vont mourir sans connaître Dieu? Et pourtant, nous avons prié pour ces personnes-là. Des moines ont prié. Et ne soyons pas découragés. Je veux dire, cette vie, eh bien, pour ces gens, était comme une espèce de contretemps parfois. Ils auraient pu rencontrer le Seigneur tellement, tellement plus vite. Leur vie aurait été tellement différente. Ce n'est pas grave. Le Seigneur a travaillé grâce à notre prière, à notre amour. Grâce à la prière de tous ces moines, il a travaillé dans ces vies qui en apparence étaient loin de Dieu. Et quand la personne va s'ouvrir de l'autre côté à Dieu, eh bien tout va mûrir, justement parce que le Seigneur aura pu travailler, mais de manière plus implicite, c'est sûr. On pourrait dire quel gâchis, il aurait pu rencontrer le Seigneur plus tôt, mais ça fait rien, le but est là. Jésus est à Rome, Paul est à Rome, c'est grâce aux frères qui sont là, qui mettent le cœur de Jésus, le cœur de Paul. En fait, les versets, vous vous souvenez du verset 15, voilà. Et n'oublions pas une chose, c'est que au cœur de l'épreuve, c'est de là que surgissent les plus belles choses, parce que Paul, dans sa captivité, il a écrit quand même l'épître à Philémon. On pense même qu'il a écrit l'épître aux Colossiens, aux Éphésiens, aux Philippiens, du lourd, de très belles épîtres sur la gloire du Christ, l'épître à Philémon, qui est une épître sur l'amour. Qu'on peut l'avoir pour un frère qui pourtant est esclave, qui parle du cœur de Paul. Et vraiment, là aussi, il y a une leçon. Vous voyez, il ne faut pas s'en tenir aux apparences. Que ce soit dans ce monde qui semble voué à Satan, qui semble complètement en perdition. Non, Dieu y travaille. Grâce à l'Église, grâce à nous qui sommes des présences brillantes, des petites lumières. Pour nos frères, pour nous-mêmes, les choses ne semblent pas avancer, stagner. Eh bien non, Dieu travaille, comme Paul, au lieu d'avoir un témoignage explicite, il essaie de le faire, les gens refusent de croire, eh bien il s'attaque à leur cœur, dans son petit logement, de manière beaucoup plus humble, par la prière, par l'amour, par le témoignage implicite. Vous voyez, eh bien, c'est ça qu'il faut faire. Pareil dans nos déprimes, eh bien, il faut ce témoignage implicite, ce témoignage humble, ce logement dans lequel on accepte d'agir, mais d'une manière plus limitée en apparence. Eh bien, ça s'appelle la patience, hein, par rapport à nous-mêmes. Il faut prier, être patient pour nous-mêmes, pour nos frères et pour ce monde. Voilà la leçon que me semble-t-il, on peut tirer de ce texte. Une dernière chose, remarquons quand même que, de nouveau, une façon de lire la Bible très intéressante, hein. J'ai abordé, vous avez remarqué, j'ai pris beaucoup l'exemple de Jésus, et puis j'ai fait allusion à son retour. Ça, c'est l'interprétation allégorique et anagogique. J'ai aussi parlé de la mort, interprétation anagogique, parlé de l'intérieur, de la vie quotidienne, de l'intérieur des cœurs, interprétation anthropologique. Eh bien, ici, vous avez de nouveau un exemple. Les apôtres, je n'invente rien, lisaient la Bible de cette façon très spirituelle. Par exemple, que fait Paul? Il essaye d'expliquer aux Juifs que le Christ est le Messie en prenant les livres de l'Ancien Testament. Finalement, Paul, dans l'Ancien Testament, va chercher des figures du Christ. C'est exactement ce qu'on appelle la lecture allégorique. Et nous ferions bien de l'apprendre que, en voyant des figures du Christ dans la Bible, c'est ce que l'Esprit fait avec Paul, donc c'est pas quelque chose d'artificiel. Eh bien, chaque passage prend une coloration différente, prend la coloration de la crucifixion et de la résurrection. Il nous apprend beaucoup, beaucoup de choses. Et regardez ce que Paul aussi dit, entre parenthèses, il cite l'Ancien Testament et il dit « Le Saint-Esprit avait bien raison », verset 25. Donc, la Bible est inspirée. La Bible n'est pas n'importe quoi. Alors évidemment, il y a des passages à la lettre qu'il faut prendre avec précaution. Et justement, si on parle du Saint-Esprit, c'est que il y a une interprétation dans la prière et aussi que le Saint-Esprit a fait dans l'Église tout entière qui est nécessaire. Mais le Saint-Esprit est là et donc la Bible, par l'interprétation que l'on peut faire dans l'Esprit Saint, et donc la parole de Dieu, n'est pas n'importe quel livre à prendre à la légère. Et je crois qu'on ferait bien de s'en souvenir, et y compris dans notre Église, où on a tendance à décortiquer la Bible comme un simple livre d'histoire, etc. Ce qui fait que le résultat, c'est que l'Église perd de sa puissance, puisque tout simplement, elle tourne le dos à l'Esprit Saint. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais vous faire partager. Donc, maintenant, si vous le voulez bien, je vais vous laisser un temps de prière où vous allez pouvoir prier à partir de ce commentaire. Ensuite, je me joindrai à vous en priant à haute voix et enfin, je vous laisserai un nouveau temps de silence pour vous permettre de faire vôtre cette prière. Ô Seigneur, moi je veux être ces frères qui te mettent le cœur en joie. Je veux être ceux qui te permettent d'agir en ce monde. Parce que entre guillemets, nous te prêtons notre humanité, notre liberté, tu peux continuer à t'incarner par nous. Oui, alors, fais de nous, Seigneur, toujours ces êtres de prière, ces portes ouvertes de l'action, de l'invisible, de ta grâce en ce monde visible. Et comme Paul, Seigneur, apprends-nous à nous adapter. Quand les choses ne vont pas dans ce monde, visible comme nous le voudrions, quand les apparences sont contraires, eh bien apprends-nous à nous tourner vers l'intérieur, vers un travail de prière et de témoignage implicite d'amour modeste et humble, vraiment nourri par ton Esprit Saint. Amen. Alors j'espère que ce moment passé avec la parole de Dieu en ma compagnie vous a rapproché du Seigneur, vous a aidé, du moins, à vous rapprocher du Seigneur. Soyez assurés de ma prière. À bientôt, je l'espère, chers internautes. Fin de l'enregistrement. Free audio post-production by Alphonic.com.